Le pape François, qui est en Irak ces jours-ci et pour qui nous prions particulièrement, le pape François a raconté que lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, un jour il a reçu la visite de deux hommes qui lui apportaient une mallette pleine de billets de banque. Yes ! C'est mieux que le loto. Il les a mis dehors. Il a refusé cet argent qu'il savait être celui de la corruption. Je me suis demandé, non pas ce que j'aurais fait, le contexte est trop différent, mais ce que je ferais si l'un de vous m'apportait une mallette pleine de billets. Je prends, je prends pas. Oui, je prends, bien sûr. Je prends, sauf que je préviens le généreux bienfaiteur que je garde ma liberté, que je ne serai redevable de rien, sinon, bien sûr, d'une prière d'action de grâce et d'un emploi judicieux de cet argent. Je le distribuerai à des personnes qui en ont besoin, sans rien pour la paroisse, encore moins pour des amis, ni pour moi. Et si le généreux donateur revient quelque temps après pour me demander un service, comme cela se passe souvent dans ces cas-là, même un service religieux, même quelque chose de parfaitement licite, je répondrai, comme pour tout un chacun, en fonction de mes disponibilités. J'aurai donc vérifié que nous sommes bien d'accord sur la gratuité de ce don, sur la réalité de ce don gratuit. Et dernière chose, une fois que j'aurai distribué l'argent, j'informerai mon évêque. Tout l'exercice de la responsabilité consiste à savoir quand il faut consulter son supérieur avant et quand il faut l'informer après. Alors les mauvais esprits disent qu'il faut éviter de le consulter avant quand il y a un trop gros risque qu'il refuse. C'est bien plus simple que cela. D'ailleurs, on a dans le livre de l'Exode, à propos de Moïse, le critère. C'est un païen, c'est le beau-père de Moïse, Jéthro, qui lui donne ce critère. Il lui dit de déléguer, exactement comme ça se passe dans l'Église, de déléguer sa responsabilité. Et qu'est-ce qui se passait? Les affaires difficiles, on les présentait directement à Moïse. Et puis les affaires de moindre importance, de courantes, ils les jugeaient eux-mêmes. Mais puisqu'il s'agit de donateurs, de bienfaiteurs, c'est ce qui se passe avec ces sacrifices dans le temple. Vous vous souvenez du centurion de l'Évangile dont le serviteur était malade et qui envoie des notables pour supplier, pour intercéder auprès de Jésus. Vous vous souvenez de ce qu'ils disent à Jésus? Il a construit notre synagogue, c'est un très grand donateur. Et Jésus y va. Il y va parce que le serviteur est malade. Et même dans certains textes, on peut dire l'enfant, son enfant est malade. C'est le même mot en grec pour serviteur, esclave ou enfant. Il y va surtout parce qu'il sait, il est Dieu, il sait que le centurion va s'humilier devant tout le monde. C'est ce que nous reprenons à chaque messe. Seigneur, je ne suis pas digne. Non seulement au début de la messe, dans ce rite pénitentiel, je confesse à Dieu devant tout le monde, ensemble. Mais avant la communion, nous reconnaissons. Cet homme, ce païen, cet occupant romain, Jésus fut dans l'admiration. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. C'est un cœur brisé, broyé. C'est ce que dit le psaume 50, le Miserere, le grand psaume du carême et du vendredi, le psaume de la miséricorde. Un cœur brisé, broyé, un cœur transpercé par l'amour. Un cœur qui continue d'aimer, malgré les déceptions, malgré l'infidélité, malgré la trahison, malgré la souffrance, les épreuves. Un cœur qui ne reprend pas ce qu'il a donné au motif qu'il s'estimerait trompé. Je me souviens qu'au cours d'une des premières retraites que j'avais faites, mon accompagnateur m'avait donné justement le psaume 50, le Miserere à prier. Et j'avais buté sur une phrase qui dit « Ne me reprends pas ton Esprit Saint ». Et je lui dis, quoi? Seigneur, tu pourrais le reprendre, il faut qu'on te supplie de ne pas reprendre cela. Et le bon père qui m'accompagnait cette semaine-là m'avait vertement repris, secoué. Il m'avait dit « Attention là, faut savoir reconnaître la tactique du diable. » Non, les dons de Dieu sont irréversibles. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. C'est nous qui sommes infidèles. Et même quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. J'ai célébré les obsèques d'un homme qui avait fait une très belle carrière professionnelle. Et la retraite pour lui avait été terrible. D'autant que les enfants étaient devenus grands et ils étaient partis. Parce que non seulement il avait fait une très belle carrière, mais il avait été un très bon père. Avec la plus grande des qualités, c'est ce qu'avaient dit ses enfants. C'est le plus beau mot que puissent dire des enfants de leur père. Ils disaient, c'était un papa rassurant. Ils m'ont dit plusieurs fois, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un père? Il était rassurant. Les enfants étaient partis, le travail avait cessé. Il lui restait seulement, enfin il lui restait, il avait deux passions. Les voyages et puis les amis. Et pour lui, comme pour tant d'entre nous, les deux s'étaient arrêtés il y a un an. Au premier confinement, et il répétait sans cesse, je ne suis plus bon à rien. Il est mort d'inutilité. C'est peut-être pire que de chagrin. Il est mort d'inutilité alors qu'il avait le remède en lui. Il avait l'Esprit Saint. Il avait la grâce de son baptême, il avait l'Esprit Saint en lui. Non seulement il l'avait en lui, mais en plus il l'avait lui sous les yeux. Il avait son épouse extrêmement pieuse qui allait tous les jours à la messe. Lui, trois fois par an. Noël, Pâques, le 15 août. Exactement comme les Juifs du temps de Jésus avaient trois fêtes par an. Ce qu'on appelle les trois fêtes de pèlerinage. À Pâques, Pessa, ce qui est l'équivalent pour nous de la Pentecôte. Shavuot, qui justement commémore le don de la loi, ce qu'on a entendu en première lecture. Et puis la troisième fête, c'est la fête des tentes, qui était en filigrane dimanche dernier à la Transfiguration. Et c'est ce que dit le texte de la loi du Deutéronome. Trois fois par an, tous les hommes paraîtront devant le Seigneur au lieu qu'il aura choisi, et ils ne paraîtront pas les mains vides. Chacun fera de sa main un don, pour dire même un sacrifice, un don, à la mesure de la bénédiction que le Seigneur ton Dieu t'aura donnée. Il fera un don ou un échange, un don ou un rachat. Et pour racheter quoi? Ses fautes ou pour racheter sa vie? Pour sortir du déni, de la colère ou de la dépression? Pour entrer dans le marchandage, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, suivant, et je reprends des catégories établies dans le modèle par la psychiatre suisse Elisabeth Kubler-Ross dans les années 70. Vous savez, elle avait fait sensation avec les cinq attitudes devant la mort. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et la résignation. Sauf qu'il en manque deux. Il en manque deux, il manque la curiosité et l'espérance, les deux signes de l'Esprit Saint, la curiosité qui pousse les petits enfants à vouloir entrer dans les églises, la curiosité de Moïse au buisson ardent, la curiosité de Zachée sur son arbre perché, la curiosité qui fait qu'on vient voir et l'espérance qui fait qu'on reste ou on revient. Alors grâce à l'Esprit Saint, on peut dire que le marchandage religieux a baissé. Non pas en proportion de la baisse de la pratique religieuse, mais sur ordre de Dieu lui-même. Et ce n'est pas nouveau, c'est la première page du livre d'Isaïe. « Que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur ?»« Ah là, vos holocaustes, la graisse des vôtres, ah, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'y prends pas plaisir. » Cessez de m'apporter tout ça, lavez-vous, purifiez-vous. On pourrait dire, changez votre cœur, changez votre cœur. Et c'est la raison pour laquelle l'évangéliste Saint Jean place cette expulsion des vendeurs du temple. L'expulsion symbolique du marchandage. C'est ça, l'expulsion du marchandage, il la place en scène inaugurale au début de son évangile, tandis que vous savez que les autres évangélistes la placent plutôt à la fin, juste avant la Passion, un moment très particulier, après que Jésus eut prévenu ses disciples, les disciples s'extasiaient devant la grandeur du temple. Il leur dit, mais il n'en restera pas pierre sur pierre. Et juste après, surtout, un épisode que vous connaissez, l'obole de la pauvre veuve. L'obole de la pauvre veuve, dont Jésus dit qu'elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est la juste interprétation de la phrase du psaume 50, « Ne me reprends pas ton Esprit Saint ». Parce que la phrase du psaume 50 dit très exactement « Que l'Esprit généreux me soutienne ». C'est ça, « Que l'Esprit généreux me soutienne ». Ton Esprit Saint, c'est l'Esprit de charité, d'amour, de générosité. « Que l'Esprit généreux me soutienne ». Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. C'est avec ce chant que nous commençons nombre de nos dimanches de carême. Rends-nous la joie du salut. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève, le jour de la résurrection. Voilà ce que le Christ est venu purifier dans le temple. Voilà ce que le Christ veut venir purifier dans nos vies. Il est venu, il vient nous rendre la joie d'être sauvés.